suite démarrer avec Sandra Mallet qui est là, qui est juste là. Ben, je vous en prie, venez à nos côtés. Vous êtes maître de conférence à l'université de Reims et vous allez nous éclairer, Sandra Mallet, sur la lecture temporelle du territoire. C'est comme ça que vous avez imaginé de nous éclairer. Lecture temporelle du territoire et de ses usages à chaque étape de l'aménagement. Vous avez un micro, vous avez peut-être aussi une présentation et du coup, pour... Non ? Eh bien alors voilà, pas de présentation, le micro suffira.
Allumé,
oui. Il fonctionne, donc parlez tout bien, tout près dans le micro et on vous entendra très bien. Eh bien écoutez, c'est à vous pour 30 minutes à peu près et puis des questions évidemment dans la salle parce que cette journée, mais vous l'avez compris, elle est aussi placée sous le signe de l'interactivité. Vous allez pouvoir contribuer à sa réussite par la qualité de vos interventions également dans la salle. Sandra Mallet, c'est à vous.
Okay, je vous remercie. Je voudrais tout d'abord commencer cette intervention par un constat qui est très général, qui est que l'urbanisme, qui est traditionnellement centré sur l'organisation de l'espace, a pendant longtemps délaissé la question des temps quotidiens. Or, ce que l'on remarque aujourd'hui, c'est que les territoires constituent un agencement de temporalité varié et que la géographie des territoires n'est jamais figée, est toujours mouvante. Et cette géographie est d'autant plus importante aujourd'hui à comprendre que les rythmes sociaux connaissent, comme vous le savez, de profondes mutations. Donc en matière de rythmes sociaux, on observe notamment plusieurs choses. D'abord que les rythmes de travail se diversifient. Katia Krüger l'a rappelé. Les horaires décalés augmentent, les journées courtes comme les journées longues de travail augmentent, le travail de nuit, de week-end, les temps partiels, etc. Et le temps des loisirs, lui, occupe une place qui est toujours plus importante hein, si on regarde l'évolution sur plusieurs décennies. Ces rythmes sociaux se diversifient et en même temps s'accélèrent. Pour Armut Rosa, sociologue et philosophe, on observe une triple accélération. Une accélération technique liée aux innovations dans les domaines des transports, de la communication, de la production. Une accélération du changement social liée au changement des principales institutions sociales, en particulier dans le domaine du travail, mais aussi dans le domaine de la famille, hein, qui sont des domaines qui sont des sphères de la vie qui sont de moins en moins stables hein, au cours d'une vie. On observe aussi, troisième point, une accélération du rythme de vie. Au quotidien, la sensation de manquer de temps touche énormément de personnes. Hein, c'est souvent lié au fait qu'on doit faire plus de choses aujourd'hui en moins de temps. Tout cela a des conséquences sur les territoires. On observe notamment une demande étendue d'accessibilité à certains commerces et services sur des plages de temps qui sont inhabituelles. Alors, il y a quelques années, mais tous les commerces et services ne sont pas ouverts non plus encore à ce moment-là, on a observé que les commerces et services sont de plus en plus ouverts pendant la pause déjeuner. Et ce n'est pas le cas encore partout. On observe qu'ils sont de plus en plus ouverts la nuit, le dimanche aussi. Donc, de fait, on revient sur les horaires. On observe aussi une demande accrue d'animation, de loisirs, une demande aussi pour une ville festive. Donc, on observe là une augmentation dans le même temps de l'offre, une diversification aussi de l'offre des loisirs, de l'offre en matière d'événements. On observe aussi une augmentation des conflits temporels sur les territoires, hein, quand les usages des uns gênent les usages des autres. Par exemple, le cas le plus typique, c'est la question des nuisances sonores pendant la nuit, qui peuvent poser problème aux riverains, par exemple, ou à d'autres types de commerces que les établissements de vie nocturne. En bref, tout cela change en fait la géographie des territoires. On observe que de nouveaux chronotopes, c'est des espaces-temps, hein, nouveaux espaces-temps se forment dans les centres-villes, mais on a aussi des micro-centralités qui ponctuent les paysages urbains. La nuit ou le dimanche, par exemple, on a des micro-centralités dans les grandes villes, mais aussi dans des villes de taille plus modeste. Moi, je viens de Reims, qui est une ville moyenne, et on observe aussi des changements pendant la nuit ou le dimanche. On observe aussi qu'il y a des espaces flux internationaux qui fonctionnent en continu, ou des zones périphériques qui sont ouvertes ou animées, alors que les autres espaces qui sont à proximité ne le sont pas. Donc tout ce contexte, ces mutations temporelles, ces mutations géographiques qui vont de pair, tout ce contexte réinterroge les pratiques temporelles de l'urbanisme. En urbanisme, habituellement, quand on élabore des programmes ou quand on fait des propositions, en général, on fait comme si le temps était relativement homogène, comme si chaque heure de la journée équivalait à une autre, comme si chaque jour de la semaine était semblable ou chaque mois de l'année était comme un autre. Je sais que je caricature un peu, mais dans l'ensemble, c'est quand même comme ça. Donc, penser de façon explicite et globale la diversité des temps des territoires est devenu l'un des enjeux majeurs de l'urbanisme contemporain. Depuis les années 80, on observe une certaine reconnaissance tout de même du temps comme enjeu d'aménagement. Cette reconnaissance s'affirme de façon progressive dans certains pays européens. Donc on a de nouveaux discours qui se sont formés sur le rôle de l'urbanisme et de l'aménagement dans l'organisation des temporalités de la ville. Et on a de nouvelles pratiques qui sont apparues. Alors, les politiques temporelles, notamment, ils sont pour quelque chose. Et en France, on peut par contre rappeler qu'il y a deux générations de ce qu'on peut appeler des politiques d'aménagement des temps. On a une première génération qui a été un peu oubliée au moment de la création des bureaux des temps. C'est une première génération qui date des années 50-60. À l'époque, on ne parle pas de politique temporelle, mais on parle d'aménagement du temps. Alors cet aménagement du temps, il est relié à la fois aux questions de rythme de travail, de temps de travail, et aux questions d'aménagement territorial. On a des structures qui sont apparues dans ces années-là et qui ont mené des expérimentations dans les villes. Ces actions reposent surtout sur des politiques d'horaires variables et des désynchronisations, c'est dur à dire, d'activités. Donc il s'agit surtout, à ce moment-là, de dialoguer en fait, avec de grandes entreprises, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, afin qu'elles avancent ou qu'elles retardent la sortie ou l'embauche de leurs salariés. Donc ces politiques, elles visaient surtout à résoudre une problématique spécifique qui était la question des problèmes de congestion et des heures de pointe dans les transports. Donc les premiers acteurs de l'aménagement du temps jugent que les temps passés dans les transports, qui sont de plus en plus longs, produisent trop de temps mort qui nuisent à ce moment-là à l'économie. Les pointes, les pics dans les transports coûtent cher aux grandes entreprises comme la SNCF, la RATP, EDF par exemple. Et donc à ce moment-là, le temps est d'abord envisagé comme étant une ressource économique. Donc les objectifs et les acteurs de cette première génération de politiques temporelles ou de politiques dédiées à l'aménagement du temps sont très différents de ceux des politiques temporelles qui sont apparues en France dans les années 90. En France ou en Italie, ces politiques temporelles, les politiques temporelles françaises déjà, pour vous dire, ont la particularité d'abord de prendre modèle sur les actions qui sont entreprises en Italie. Donc, en Italie, ces politiques temporelles sont nées au milieu des années 80. Elles sont nées de l'idée d'un droit au temps, qui est quelque chose qui est nouveau. À l'origine, ces politiques visaient surtout à trouver des solutions pour un type de population particulière, que sont les mères, les mères de famille, qui rencontrent des difficultés à gérer les diverses parties de leur emploi du temps. Ces politiques se sont ensuite diffusées dans plusieurs pays européens, en fait surtout en France. Et en France, la création de ces politiques ne s'inscrit pas exactement dans le même type de démarche. En France, la création de ces politiques s'inscrit en fait dans une démarche qui vise d'abord à renouveler les bases de l'aménagement du territoire. Ces politiques sont apparues dans une période où sont élaborées déjà de nouvelles lois qui visent à changer les formes de la planification territoriale. Alors, les urbanistes connaissent ces nouvelles lois de l'époque. C'est la loi sur l'intercommunalité, la LOADDT, la SRU notamment. Et en parallèle, apparaissent également à cette époque-là, ça se joue sur 2-3 ans, les lois Aubry qui suscitent, elles, vous le savez aussi, de très nombreuses réactions. Les premiers bureaux des temps français, eux, ont été créés à partir de 2001 et en partie grâce au programme de prospective de la DATAR Territoire 2020. Donc, en France, c'est vraiment la volonté d'abord de renouveler les bases de l'aménagement du territoire qui constitue un élément structurant de ces politiques-là. Alors, aujourd'hui, il existe une trentaine à peu près de bureaux d'étangs ou de territoires qui s'intéressent aux politiques temporelles et qui ont adhéré à Tempo territorial, donc possédant ou non un bureau d'étangs hein, en France. Ce qu'on peut relever par rapport à ces politiques temporelles, c'est que, de façon très récurrente, c'est qu'elles sont résumées de façon rapide, je pense vraiment, à des politiques d'horaire. Ça, à mon avis, c'est réducteur. Hein. Pour moi, les politiques temporelles, elles apportent d'abord un regard qui est novateur sur les territoires urbains et elles modifient d'abord les pratiques publiques traditionnelles. Donc elle présente d'abord l'intérêt de recentrer les actions urbaines sur les usages en les abordant de manière explicite hein, sous cet angle particulier qui est le temps. S'intéresser au temps, c'est s'intéresser à la diversité des rythmes au sein d'un même lieu. Il est important de s'intéresser à cette polychronie des lieux. Polychronie des lieux, c'est le fait qu'un même lieu engendre des usages pluriels hein, en un même moment, en une période de temps donnée. Et cette polychronie des lieux, elle a tendance aujourd'hui à augmenter, en particulier dans les centres-villes durant la nuit, qui voient leurs activités s'intensifier, les conflits augmenter dans le même temps. Les bureaux d'étangs, les politiques temporelles ont appuyé ou initié, par exemple, des chartes des usages ou des chartes de la nuit, mis en place des dispositifs originaux qui allient des propositions d'activités nouvelles, des aménagements d'espaces publics, comme c'est le cas, ça a été le cas en 2004 à Rennes, notamment, autour de la place Sainte-Anne. S'intéresser au rythme, c'est aussi s'intéresser à la gestion des espaces urbains et des équipements publics selon les moments. Dans les utilisations quotidiennes des lieux, on remarque très facilement qu'il existe de larges plages de sous-utilisation des équipements qui sont dues à plusieurs choses. D'abord à la spécialisation des lieux, mais aussi au statut de propriété, au système d'assurance, etc. Donc, parmi les objectifs aussi des bureaux d'étangs, ça a pu être, hein, pour certains, par exemple, de rendre accessibles hein, des écoles à d'autres périodes que durant les périodes scolaires. Bon, de ces réflexions au sein des politiques temporelles et des bureaux d'étangs, de ces réflexions, de ces actions qui ont été menées, serait en train aujourd'hui de se constituer un urbanisme temporel. C'est-à-dire un urbanisme qui intégrerait pleinement cette question du temps en urbanisme. Donc on a plusieurs acteurs hein, des politiques temporelles qui emploient cette expression. Il y a d'autres expressions aussi qui sont employées, chrono-urbanisme, chrono-aménagement, urbanisme chronotopique ou aménagement chronotopique. En ce qui concerne les bureaux d'étangs, en tout cas, on remarque que finalement, les bureaux d'étangs restent assez peu sollicités par les aménageurs et les urbanistes. Ce qu'on remarque, c'est que dans les projets urbains, par exemple, ils interviennent quelquefois au niveau du diagnostic, mais ils sont très rarement, voire jamais, hein, intégrés dans la définition des orientations ou dans le suivi des projets. Ça, je trouve que ça pose question. Hein. Est-ce que cette prise en compte du temps ne serait pas pertinente dès l'élaboration des projets, par exemple ? Dans le cadre des conflits temporels, par exemple, les bureaux des temps sont présents en tant que médiateurs aujourd'hui pour apaiser les conflits existants. Ça signifie qu'ils interviennent en cas de problème déjà constitué. Or, on peut là s'interroger, hein, est-ce que l'intégration des politiques temporelles lors des phases de diagnostic, de programmation, de planification, est-ce que ça ne pourrait pas permettre d'éviter la naissance même de ces conflits temporels ? Donc là, il y a une large question, je pense, hein, qui est ouverte. On peut supposer aussi que leur prise en compte, la prise en compte hein, du temps hein, en amont des projets urbains pourrait peut-être permettre une optimisation de l'utilisation des équipements et des espaces publics hein, dans le temps. Je sais qu'il y a des expérimentations hein, qui sont faites en France, mais ce n'est pas quelque chose hein, qui est vraiment systématique. Donc tous ces propos n'enlèvent rien à l'intérêt, bien sûr, des politiques temporelles et des bureaux des temps. Bien au contraire, hein, je pense que les urbanistes et les aménageurs gagneraient à intégrer de façon plus pertinente cette question du temps dans leur pratique. C'est ce que perçoivent aussi, bien entendu, hein, plusieurs acteurs des politiques temporelles hein, qui partagent certains de ces constats avec moi. C'est la raison d'être de cette journée, la création du guide hein, qu'on vous a donné à l'entrée. Alors, En ce qui concerne les urbanistes et le temps, parce que jusque-là, je vous ai parlé des mutations sur les territoires, des politiques temporelles et du bureau des temps, mais sur les rapports des urbanistes au temps, il y a quand même plusieurs choses qui sont assez particulières et qui sont spécifiques. Tout d'abord, il faut avoir conscience que si les réflexions en aménagement sont traditionnellement centrées sur l'espace, la définition classique de l'aménagement, c'est ce qui traite à l'organisation spatiale des établissements humains. Donc si les réflexions en aménagement sont traditionnellement centrées sur l'espace, aménagement et urbanisme, on ne peut ignorer que l'aménagement et l'urbanisme agissent depuis toujours sur l'organisation temporelle de la ville et influencent du coup inévitablement les rapports au temps des habitants et des usagers. Donc les modèles, par exemple, les modèles d'organisation de l'espace urbain ont des effets directs sur la gestion des emplois du temps et les manières de vivre ensemble. L'étalement urbain et le fonctionnalisme ont produit des espaces qui sont divisés, aux régimes temporels qui sont différenciés. De façon schématique, la ville a éclaté en espaces aux activités différenciées, dédiées au logement, au travail, aux courses, aux loisirs, etc. Cet urbanisme, qui génère forcément de fortes mobilités et des pertes du temps, est relativement chronophage. À l'inverse, le modèle d'une ville dense, compacte, proposant une mixité de fonctions urbaines, ce modèle-là, à l'inverse, il est fortement susceptible de générer des conflits en rapprochant des activités et des populations qui ont des régimes temporels qui sont divergents, cas classique de la nuit, entre riverains et établissements de vie nocturne et sortants nocturnes, par exemple. Donc ce modèle-là de la ville dense pose aussi question au niveau temporel. En plus de cela, autre constat, c'est qu'on observe un nombre important, tout de même, qu'il est intéressant de rappeler, d'actions temporelles éparses qui sont menées depuis plus ou moins longtemps par les collectivités locales. Et la liste est loin d'être courte. Donc, comme disait Katia Kruger, par exemple, on fait souvent de l'aménagement temporel, finalement, sans le savoir vraiment. Donc, parmi les listes, j'ai juste recensé quelques points, mais on observe par exemple qu'il y a un travail qui est toujours fait dans les collectivités sur la variation de la durée de l'éclairage public au fur et à mesure de l'année. On observe que les horaires d'ouverture et de fermeture des parcs et jardins varient selon les saisons, que les horaires de circulation des transports en commun, évidemment, doivent être pensés, c'est une évidence. On observe aussi que la définition des plages d'ouverture des services publics doit également être pensée. On observe aussi une certaine promotion des modes de déplacement lents, comme la marche à pied ou l'utilisation du vélo, l'instauration de limitations de vitesse, de circulation automobile, des zones 30, des espaces partagés, par exemple, l'organisation d'événements, etc., etc. La liste pourrait finalement être assez longue. Ce qui pose question aujourd'hui, c'est que ces actions, en fait, sont souvent cloisonnées et elles sont très rarement coordonnées entre elles. Donc, l'un des enjeux actuels de l'urbanisme, de l'aménagement, plus largement même des politiques urbaines, c'est de penser de façon explicite et volontaire, dans une approche globale finalement, cette diversité des temps de la ville au regard des enjeux soulevés au début de cette intervention et dans les propos aussi de Katia Kruger et Dominique. Il y a aussi d'autres enjeux. Ces rapports au temps de l'urbanisme me semblent aujourd'hui d'autant plus intéressants à interroger que l'émergence et l'affirmation de certains référentiels dans le domaine de l'urbanisme remettent en cause directement les rapports au temps de l'urbanisme. On parle en effet depuis quelques années, alors je liste, d'urbanisme durable, d'urbanisme adaptable, d'urbanisme malléable, réversible, mutable, recyclable, évolutif, éphémère, résilient, festif, événementiel, temporaire, et la liste pourrait être au moins multipliée par 2, 3, voire 4. Donc depuis quelques années, les qualificatifs qui sont associés au mot urbanisme prolifèrent. Alors, bien entendu, tous ces termes que je viens de citer sont évidemment pas à prendre tous sur le même plan. Déjà, certains sont plus explorés que d'autres, sont plus utilisés que d'autres, certains connaissent plus de succès. Ces termes ne renvoient pas non plus aux mêmes significations, urbanisme durable, urbanisme temporaire ou festif ou résilient, c'est pas exactement la même chose. Mais ces termes présentent tous certaines similitudes, en ce sens qu'ils posent tous la question du rapport au temps de l'urbanisme. Alors juste deux, trois exemples. Hein. L'urbanisme durable, qui est quand même le référentiel majeur aujourd'hui hein, de l'urbanisme, repose quand même sur l'idée d'abord d'un développement durable qui, face à la montée des incertitudes, invite à repenser la course au progrès continu des sociétés modernes. La question temporelle du développement durable est centrale dès la formulation de la notion et dès les premières théories qui lui sont liées. Les définitions les plus couramment admises désignent le développement durable comme un processus qui appelle au changement. Il invite les sociétés à repenser leurs actions dans des temporalités différentes, dont l'articulation hein, passé, présent, futur, hein, et à reconsidérer. Et de cette façon, juste pour rappeler, la durabilité, elle n'est pas associée à une idée d'immuabilité, mais à l'idée d'une adaptation des sociétés à certains changements, hein, et notamment au changement climatique. La malléabilité, elle, renvoie à l'idée d'une ville qui peut être facilement modifiée, en étant d'abord centrée sur la prise en compte de l'intensité urbaine, c'est-à-dire des variations des usages selon différentes échelles de temps. Troisième déclinaison sur laquelle je vais légèrement insister, hein, c'est la question de l'urbanisme événementiel, hein, qui mobilise, quant à lui, l'événement comme un outil d'aménagement à part entière. L'aménagement d'un espace de façon spécifique durant une courte période vise là, bien souvent, des objectifs hein, de plus long terme. Les temporalités de l'événement étant censées déborder, en quelque sorte, hein, l'événement lui-même. Donc, ce que je pense, c'est que la profusion contemporaine des qualificatifs hein, qui caractérisent l'urbanisme tend à remettre en question la façon dont l'urbanisme est pensé temporellement. Il ne faut pas oublier que les urbanistes sont eux-mêmes confrontés au contexte social et économique dans lequel ils s'inscrivent, et en particulier aux évolutions temporelles en cours, et notamment à l'accélération du temps. Or, lorsqu'on fait des enquêtes auprès des urbanistes sur la façon dont les urbanistes se représentent la question du temps, on se rend compte que cette question du temps, en fait, elle est d'abord comprise comme étant un allant de soi. Les urbanistes s'accordent à dire que le temps est une dimension qui est incontournable des projets urbains. Il y a unanimité hein, sur ce point-là. Cette question du temps, elle est inhérente aux opérations d'urbanisme, de toute façon, que ce soit des opérations de requalification urbaine, de reconversion, de renouvellement, de rénovation. Hein. Dans tous les cas, ça impose un travail sur les rapports d'un espace au passé, au présent, au futur, dans l'élaboration des scénarios, dans l'étude prospective, dans la définition de ce qu'on va conserver, réhabiliter, construire. Ces actions, elles engagent inévitablement un rapport au temps. Cela relève d'une évidence qui, aux yeux des urbanistes, c'est ce que je constate dans mes enquêtes, hein, ne peut être remis en question. Cependant, les enquêtes que j'ai menées montrent aussi que les acteurs de la fabrique urbaine s'interrogent rarement de façon explicite et directe sur les temps du projet et sur les façons d'agir sur les temps de la ville. Et même agir sur les temps de la ville ne fait pas forcément sens pour tous. De ces enquêtes, je retiens aussi que les acteurs de l'urbanisme sont très préoccupés par le temps du processus de projet, leur temps propre, le temps de leur propre activité. Le temps du projet urbain, c'est d'abord le temps d'une opération qui s'inscrit dans la durée et qui est soumise à des évolutions. Le processus de projet implique un très large système d'acteurs, que ce soit des acteurs publics ou des acteurs privés, qui ont des logiques temporelles qui sont différentes de par leurs objectifs, mais aussi de par leur place dans le projet, leur culture professionnelle. Les élus, par exemple, n'ont pas les mêmes préoccupations que les maîtres d'ouvrage, ni les maîtres d'œuvre que les promoteurs, hein, etc. En matière de recherche, de réflexion plus largement, ça ouvre des perspectives qui sont intéressantes. On peut se demander comment se construisent les temps du projet, par exemple, d'autant plus qu'on est, en tout cas dans certaines villes, vraiment dans une accélération de la production urbaine. Et on voit également se développer dans beaucoup de villes hein, des projets urbains qui ont des tailles de plus en plus importantes. Donc je pense qu'il y a un très vaste chantier à ce niveau-là qui est ouvert sur la prise en compte du temps en urbanisme à plusieurs niveaux. Pour ma part, donc on parle d'aménagement hein, depuis le début. Pour ma part, je pense qu'il faudrait plutôt parler de ménagement que d'aménagement des espaces. Le terme d'aménagement est quand même assez curieux pour deux raisons. Alors, d'abord, parce que l'aménagement se rapporte dans nos représentations à tout processus intentionnel d'organisation de l'espace, et que ça ne contient pas dans notre imaginaire courant de dimension temporelle. Et deuxièmement, parce que le verbe aménager, ça veut dire prendre soin. Donc prendre soin des gens, des lieux, des choses. Ce qu'il faut évidemment pas perdre de vue quand on est aménageur. Et en français, le préfixe a que l'on retrouve dans aménagement signifie d'abord le manque, la privation, la suppression. Donc c'est assez curieux, je trouve, comme terme, hein, aménagement. Et je pense qu'aussi, juste pour finir, c'est que par rapport à tous ces enjeux que j'ai cités, il y en a certainement encore d'autres dont je n'ai pas parlé, c'est que je pense qu'il s'agit bien d'impliquer d'abord tous les métiers de l'urbanisme. Ces métiers sont au pluriel. L'urbanisme, l'aménagement, ça recouvre des choses qui peuvent être très, très différentes. Ça peut être de l'analyse territoriale, de la conception urbaine, de la gestion urbaine, de la conduite et management de projets territoriaux et urbains, de l'animation, de la concertation, et puis aussi tous les métiers qui sont liés à la recherche et à l'enseignement, hein, pour sensibiliser, notamment en termes d'enseignement, hein, et former les urbanistes, hein, à ces questions temporelles, ce qui est finalement assez rarement fait. Voilà, je vous remercie. Je crois que j'ai tenu à peu près, hein, les temps.
On va prendre celui-là. Merci beaucoup, Sandra Mallet, pour votre exposé qui fait la part belle aussi à la question sensible, hein, de ces rythmes et de ces temporalités. Vous l'avez bien exprimé. Juste une question peut-être avant que certains dans la salle puissent venir vous en poser. Sur l'évolution que vous constatez dans les travaux, vous avez évoqué les enquêtes que vous menez, vous constatez une plus grande, une meilleure prise en compte aujourd'hui en France de ces questions. Là, vous avez cité à juste titre le fait que pendant longtemps, on a été voir un petit peu les exemples étrangers pour s'inspirer de ces questions de temporalité appliquées à la fabrication de la ville. Aujourd'hui, on est dans une dynamique quand même davantage partagée.
Oui, effectivement. Alors, les exemples étrangers sont souvent pris en Italie,
ouais.
En matière de poétique temporelle, en tout cas. Dans le domaine de la recherche et en matière de réflexion sur ces questions d'aménagement temporel, cette question du temps, ce qu'on remarque, c'est que là, les chercheurs français ont quand même investi assez largement par rapport à d'autres pays, hein, cette question du temps. Notamment, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la nuit occupe la nuit urbaine, les aménagements de la nuit occupent une place quand même dans le domaine de la recherche.
Il y a française, beaucoup de littérature sur la question. Hein.
Ouais. Et dans le domaine de la mobilité aussi, on observe qu'il y a beaucoup de choses sur la question du temps et des mobilités. Après, ça ne veut pas dire que les autres pays ne prennent pas en compte du tout cette question-là du temps, mais ne la prennent pas forcément de façon directe. Pas de façon aussi frontale, je pense, qu'on le fait aujourd'hui en France.
Donc on est un peu en avance, là, pour le coup.
J'aime pas parler d'avance et de retard. Il y a des modèles culturels qui sont très différents selon les pays. C'est que les modalités, elles sont d'abord différentes.
Ouais. On n'est jamais hors sol, hein, quand on s'intéresse à ces questions-là. Ouais. Vous avez raison de le rappeler. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, le principe, il est tout simple. Vous avez des micros devant vous. Il faut appuyer sur le petit bouton mic qui se trouve sous le micro pour qu'on puisse vous entendre. Monsieur, vous demandiez la parole.
Voilà. Merci, Fernand Etiam, le adjoint au maire de Saint-Jacques-de-la-Lande. Merci pour cet exposé à la fois court et stimulant, qui ouvre sûrement sur plein de problématiques. Je me limiterai, pour ma part, à deux rapidement. Sur un plan général, vous avez évoqué évidemment le problème de l'accélération des temps. Moi, j'évoquerai dans les tendances récentes, la slow life, par exemple, la tendance aussi à vouloir décélérer. Est-ce que ce n'est pas aussi jusqu'à ce point qu'il faut poser à un moment donné le problème, dans la mesure où si on raisonne aménagement des temps, aménagement de l'espace en liaison avec les rythmes, mais toujours dans cette tendance à toujours courir après le temps, est-ce qu'on n'est pas dans une contradiction? Je me limiterai à un exemple, à un moment donné, vire à l'irrationnel. Vous avez évoqué à un moment donné... le problème des transports, Mais excusez-moi, avec justement une contradiction, si on considère toujours comme mode lent, je reprends un de vos termes, le déplacement à pied et à vélo en ville, est-ce qu'on n'est pas complètement dans un contresens ? Alors que plein d'expériences montrent qu'aujourd'hui, c'est les modes de déplacement à développer dans la mesure où, en réalité, ils sont plus rapides que la voiture lorsqu'on est en pleine congestion. Voilà, premier plan pour vous relancer de manière peut-être un peu stimulante et provocatrice. Je voudrais, comme adjoint au maire en particulier de Saint-Jacques-de-la-Lande, vous relancer aussi sur la question de l'aménagement d'espaces urbains, des espaces soit, vous avez dit, hein, la ville compacte, dense, peut être en contradiction avec l'apaisement des usages des temps, leur compatibilité, qu'elle peut être génératrice de conflits. Mais je pense que vous n'êtes pas partisane, comme personne dans cette salle, et personne de manière générale, pour le retour, évidemment, à un aménagement style années 70 de grandes zones monofonctionnelles. Et je pense que là aussi, on peut, à partir d'exemples qui ne sont pas parfaits, qui sont à retravailler, je pense, moi, par exemple, à l'aménagement aux limites à cheval sur Rennes et Saint-Jacques du quartier nouveau de la Courrouze, en cours de construction, et en particulier du secteur des dominos, par exemple, qui a été voulu, qui est peut-être encore trop bureau, d'ailleurs, mais qui a été voulu et qui se construit quand même comme un...
Alors, tout le monde dans la salle ne connaît pas hein, tout ça,
oui, vous pourrez aller c'est visiter. C'est le long de la rocade, voilà. Crédit Agricole.
Non, mais on ne va pas rentrer dans le détail.
Mais ce n'est pas
ce
un
stade.
Espace simplement de bureau, c'est un espace aussi où il y a des logements. Et tout cela pour
du coup, votre question
de,
sur ce point-là.
Transport. Eh bien, je dis que là aussi, il faut voir ça comme un levier, au contraire, pour une bonne gestion des temps aujourd'hui. Et que c'est dans cette direction qu'il faut aller, c'est-à-dire des quartiers compacts et multifonctionnels.
Alors, vous ouvrez là des perspectives que l'on va certainement réinterroger tout au long de la journée au travers des exemples et des témoignages qui vont se succéder. Sandra Mallet, est-ce que sur le slow life, le prendre oui. son temps, ralentir et puis être dans des modes de déplacement plus actifs et pas forcément plus lents, hein, oui. c'est ce qui nous disait, ce qui nous était dit à l'instant. Vous souhaitez réagir ?
Oui, alors je pense qu'il n'y a pas de contradiction à l'échelle des individus ou des groupes sociaux même sur le fait de vouloir allier dans leur propre vie, hein, dans sa propre vie, la question de l'accélération d'un côté et la question de la hauteur. Il y a une accélération qui est généralisée. Mais en même temps, ce qu'on observe aussi, pour reprendre les propos d'un géographe qui s'appelle Michel Lussault, c'est que les habitants, certainement aujourd'hui, hein, hybrident de plus en plus leur temps, hybrident de plus en plus et utilisent en fait de plus en plus hein, tous les gradients de la vitesse. C'est-à-dire que... Pas bien compris.
Pas très bien compris ce que vous voulez dire, excusez-moi.
Donc les utilisateurs, dans notre vie, on utilise l'ensemble des gradients de la vitesse. C'est que parfois on accélère. On accélère par exemple dans les temps de transport, ça c'est quelque chose d'assez classique, pour se rendre d'un lieu à l'autre, pour pouvoir prendre plus de temps ensuite, savourer le temps par exemple qu'on va passer avec ses enfants, ou prendre le temps pour avoir des activités de loisirs, etc. Donc l'accélération, elle se fait pas à chaque minute forcément de notre journée. C'est quelque chose qui est beaucoup plus général. Après, sur la slow life, ça veut dire énormément de choses. Quand on regarde tous les mouvements slow qui existent, on observe qu'il existe... D'abord, a été créé le slow food en Italie au milieu des années 80, centré sur le fait de prendre son temps pour manger, pour partager un repas avec les autres, pour déguster, pour se recentrer aussi sur les gastronomies et la gastronomie locale, les façons de faire traditionnelles. Puis ensuite, les mouvements se sont démultipliés, surtout depuis les années 2000. Donc il y a les cheetah slow, les villes lentes, ce n'est pas du tout une bonne traduction, mot à mot, ça veut dire ça. Il y a la slow science, la slow slow love, le slow sex, le slow drinking, le slow est à toutes les sauces aujourd'hui, slow listening. Donc il y a tout un tas de mouvements slow qui se rapportent à des choses qui sont très différentes. Moi j'ai travaillé, j'ai fait des enquêtes sur les cheetah slow et là j'ai observé des choses aussi, malgré cette étiquette cheetah slow et l'adhésion à un réseau et un label hein, qui impose certaines choses, j'ai observé sur les communes françaises qui ont adhéré des rapports que les acteurs hein, de ce mouvement-là hein, ont des rapports qui sont très différents par rapport à ce que représente le slow. Et d'abord, pour ces gens-là, le slow, ce n'est pas la lenteur. Le slow, c'est autre chose. Alors, je pense que le fait d'appeler, d'utiliser en tout cas ce mot slow, ça renvoie de toute façon à quelque chose de différent. La lenteur, dans la langue française et dans beaucoup de langues, c'est d'abord quelque chose qui est dévalorisé. Hein, c'est quelque chose qui est associé au fait souvent d'avoir un manque de rapidité dans la réflexion, par exemple, ou un retard. Hein, quelqu'un de lent, c'est quelqu'un qui est souvent en retard. C'est quelque chose qui est très souvent dévalorisé. Alors, on observe dans une certaine mesure une valorisation qui n'existait pas jusque-là hein, de la lenteur dans on va dire la société française actuelle. Il y a tout un tas de livres qui sont parus là-dessus. Il y a le livre de Pierre Sansot, du bon usage de la lenteur. Et puis à l'échelle internationale, là, il y a le livre de Carl Honoré, qui est un journaliste canadien qui a eu un énorme succès. Non, c'est lui qui a écrit du bon usage de la lenteur. Et Pierre Sansot a écrit... je ne sais plus le titre de son livre, mais quand même assez différent. Le livre de Carl Honoré, il a eu un retentissement au niveau international. Il est traduit dans plus de 30 langues. Et il y a tout un espèce de marketing aussi hein, autour de ça, des publications dans des revues comme Psychologie Magazine, etc. Les acteurs, ce que je voulais vous dire, hein, c'est que les gens ont des positions qui peuvent être très différentes par rapport à ça. Le slow, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Le slow, dans les cheetah slow, renvoie à des choses qui sont très différentes pour les acteurs. Il y a, dans une certaine mesure, cette question-là du temps, mais d'abord, pas autour de la lenteur, mais d'abord autour de l'idée d'une meilleure maîtrise du temps, au fait qu'on a plus de pouvoir pour agir sur notre propre temps. Et cette question-là du slow, elle est raccrochée à plusieurs choses, notamment au local. Il y a une revalorisation du local, comme si le local, ça nous ramenait à des temps aussi hein, qui sont différents. Valorisation du développement durable aussi. Donc, faut se méfier un petit peu de cette association slow-lenteur parce qu'elle est beaucoup plus complexe hein, que ce qui peut y paraître au premier abord.
En tout cas, la terminologie et la sémantique a son importance. Hein. Vous avez à plusieurs reprises dans votre intervention souligné la polysémie qu'on peut trouver sur certains termes employés dans ces sujets-là. Mais là, vous venez encore de nous en donner bel exemple.
J'avoue que je m'intéresse assez
C'est passionnant.
Beaucoup hein, la question des représentations des acteurs, parce qu'on n'a pas tous les mêmes représentations des choses derrière les mêmes mots. On ne place pas tous la même chose. Donc, essayer d'expliquer ce que les gens pensent et placent derrière ces choses-là et du coup, après, vu que je travaille sur les questions d'urbanisme et d'aménagement, quelles actions est-ce qu'on va mettre en place ? Ça me paraît fondamental, effectivement.
Merci.
J'aimerais bien répondre à l'autre question, parce qu'elle était très, très différente.
Allez-y.
Sur la question de la ville dense. Alors, effectivement, je ne prône pas particulièrement la question de l'étalement urbain. Hein. Ce n'est pas du tout le sens de mes propos, qui, par ailleurs, je l'ai dit, hein, est assez chronophage hein, en termes de temps. Ça induit des choses aussi qui sont très particulières. Mais je pense que la question de la ville dense et de la ville compacte, elle mérite vraiment réflexion. Si on prend le cas de la nuit, par exemple, on ne peut pas nier aujourd'hui que dans les villes françaises, dans les centres-villes, il y a une augmentation des conflits temporels. Je l'ai dit plusieurs fois, c'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui à gérer, dans la gestion de la ville et puis aussi en matière d'urbanisme, d'aménagement, concrètement. Ça peut entraîner tout un tas de réflexions. Par exemple, est-ce qu'on doit créer des pôles urbains nocturnes, par exemple, qui regrouperaient des services de transport, différentes activités, différents services, etc., où on pourrait trouver certaines informations sur la ville et où, du coup, on fonctionnerait peut-être en réseau. Enfin, je ne sais pas, il y a pas mal de choses à imaginer. Il y a des réflexions qui sont aussi en cours et des actions qui sont menées autour de la règle du primo-arrivant. C'est-à-dire que quand on voit arriver, par exemple, dans un quartier qui est d'abord résidentiel, quand on voit arriver des nouveaux établissements de vie nocturne, des bars, des pubs, des cafés, des boîtes de nuit, etc., qui génèrent tout un tas de nuisances sonores pour les riverains, parce que les gens sortent dans l'espace public pour aller fumer, hein, notamment. Cette règle du primo arrivant, elle est aussi valable, hein, de façon réciproque. Hein, quand il y a des gens qui s'installent dans un quartier parce que le quartier est en vogue, est à la mode, parce qu'il y a des établissements de vie nocturne qui sont très à la mode, donc ça attire certains types de populations. L'inverse serait vrai aussi, du coup, que ces plaintes des habitants, de ces nouveaux résidents, ces plaintes pour nuisances sonores, du coup, soient pas prises en compte de la même façon que si les habitants étaient d'abord là avant. Et puis, dans les villes, ce qu'on voit aujourd'hui, hein, c'est qu'il y a des villes qui mènent des politiques qui sont très différentes au niveau des activités. Des activités nocturnes, hein, qui augmentent. Certaines villes choisissent la diffusion de ces espaces nocturnes au sein de leur ville. C'est le choix, par exemple, de Paris aujourd'hui, qui choisit de ne pas concentrer ses établissements de vie nocturne. C'est le choix de Bordeaux aussi. À l'inverse, il y a d'autres villes où ces pôles, c'est pas des pôles, mais ces établissements de vie nocturne sont très concentrés. C'est le cas à Reims, même si on a vu se développer, hein, plusieurs centralités depuis quelques années. Et à Reims, par exemple, aujourd'hui, en matière de réflexion, d'aménagement de la nuit, il y a un nouveau quartier qui va se construire, qui est situé, en fait, qui sera intégré dans le centre, et qui va faire la liaison entre différents quartiers, notamment la liaison entre une zone d'activité qui possède une salle des musées, musique actuelle, en gros deux énormes salles de concert, et puis la boîte de nuit la plus grosse de la ville, et de plus grosse de la ville de loin, de très très loin. Et donc il y a aujourd'hui des réflexions pour savoir si on ferait pas mieux, du coup, dans une certaine partie de ce quartier, de faire de la place à ces établissements de vie nocturne qui ont du mal à trouver leur place en centre-ville parce que ça cause tout un tas de problèmes. Donc là, la question, alors je sais pas jusqu'où ça ira, on est vraiment au tout début des réflexions, mais ces réflexions, elles sont intégrées tout en amont du coup du projet, et elles sont intégrées en lien avec des gérants de boîtes, enfin un gérant en particulier de boîtes de nuit, hein, pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place en termes de sécurité, en termes d'aménagement d'espace public.
Ça, c'est nouveau comme approche.
C'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Ce que me disait le gérant de cette boîte de nuit là, c'est qu'il y a 10 ans, il n'aurait jamais imaginé une telle chose.
Et voilà. Peut-être on peut imaginer que demain, une telle initiative pourrait faire école ailleurs et que l'exemple que l'on observe à Reims...
Il y a peut-être déjà même des exemples ailleurs que je ne connais pas, mais je trouve en tout cas que c'est très intéressant. D'autant plus que ça, a priori, à Reims, on ne l'imagine pas du tout, parce que la question de la vie nocturne, elle est gérée par le premier adjoint de la ville, qui est un adjoint qui est à la sécurité. Donc, a priori, on n'aurait pas imaginé qu'il y ait un accompagnement de ce type-là qui pourrait être fait. Donc ça aussi, je trouve ça intéressant, parce que derrière des affichages, des choses, finalement, il se passe des choses qu'on n'imaginerait pas a priori.
On va peut-être s'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup, Sandra Mallet. On peut vous applaudir pour cette première intervention qui cadre bien les débats qui vont suivre. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et maintenant,